moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Soyez les bienvenus, chers Krossi, Europe von unserem Glänzender Sender Rundfunk Judaïka. Wie geht's, it Moria, alles in Butter und Fils et Münsterkäse? Oh, pardon, c'est pas très joli ce que je dis. Alors, soyons un peu sérieux, monsieur Müller, nous sommes déjà Anfangs Mai, début du mois de mai, en mai, fais ce qu'il te plaît, und drüben en Allemagne, on dit sag mir im Mai, kannst du machen, was du willst, gell? Alors, moi, je fais ce que je veux au mois de mai, ce qui me plaît au mois de mai. Et ce bon matin, j'ai invité une star internationale, erglänzt wie mon invité surprise, comme un Goldkafer. Vous le connaissez tous, il sublime les visages avec un doigté d'orfèvre, un coup de ciseau, deux bigoudis, il vous offre une beauté immédiate. Et même votre miroir vous dit grand merci, yo-yo, c'est moi ça. Alors, je vais vous le présenter. Bonjour, salut Yannick Kremer, l'homme des multiples salons de coiffure aux quatre coins du monde.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien. Un peu bousculé ce matin, mais je suis content d'être là quand même.
Mais tu fais
un peu essoufflé.
Essoufflé, tu fais plein de choses, évidemment. T'es un homme, tu fais plein de choses dans ta vie. Alors, quelle belle aventure, hein, Yannick Kremer, tes salons de coiffure.
Merci, t'étais un peu élogé dans ta présentation.
Non, mais c'est normal, il faut dire les choses comme on a envie de les dire. Moi, je les sens comme ça parce que je te connais depuis 40 ans. Oui. On se connaît depuis très longtemps, on a une belle amitié, on a tricoté une belle amitié.
On a fait plein de choses ensemble.
Même si on se voit pas souvent. Mais on se connaît bien. Alors, dis-moi ton nom de famille, Kremer, en alsacien, ça signifie colporteur, marchand, commerçant, un nom de famille déjà presque prédestiné. On peut dire ça ?
Alors, je vais t'avouer une chose. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire.
Kremer,
c'est un peu comme Müller. Il y en a un peu moins que les Müller.
Oui, c'est vrai, les Müller, on en est nombreux.
Mais l'autre jour, il y a quelques temps, j'ai visité la cathédrale.
Ouais.
Et devant la cathédrale, il y a le monsieur qui nous a expliqué un petit peu les différents détails de la cathédrale. Il me dit, tu sais, toi, tu as déjà ta rue.
Ta rue ?
Ouais. Alors il m'a dit, regarde-moi. Bah, j'ai dit, oui, c'est la rue Mercière. Il m'a dit, regarde en dessous ce qu'il y a marqué. Et en dessous de la rue Mercière, il y a marqué Kremerkos.
Ah, Kremerkos, ça veut dire donc que c'était une sorte de...
Mercier, certainement.
Mercier, voilà, donc un marchand, ouais, c'est intéressant. Et alors, aujourd'hui, Yannick, tu étais un marchand de style et d'élégance à travers le monde. C'est vrai que tu es coiffeur. Et tu as combien de salons de coiffure à travers le monde ?
Alors, je te confirme que je suis coiffeur et j'ai aujourd'hui... 200 salons de coiffure à travers le monde.
Waouh, mais comment on gère ça ?
Bah, au quotidien.
Au quotidien.
C'est un sacerdoce quelque part. Hein.
Alors c'est bien, c'est que ton nom Yannick Kremer est connu dans le monde entier. Tes salons portent ton nom ?
Bah, dans le monde entier, c'est peut-être un peu beaucoup, mais dans pas mal de pays, essentiellement en Asie, où effectivement on a un développement assez important.
Et ça fait 40 ans que tu es une sorte de semeur d'étoiles, que tu sèmes des salons de coiffure un peu partout.
Alors moi j'ai commencé en 1975 à Wissembourg, chez M. Schalk, où j'ai fait mon apprentissage. Donc 75, ça fait quoi ? Ça fait combien d'années ?
Ça fait 51 que tu travailles, mais tu es presque retraité, non ? Retraitable ?
Je suis retraité.
Tu es déjà retraité ?
Je suis retraité.
Ah, ouais.
Sur le papier, officiellement, je suis retraité.
Mais tu es un retraité actif.
Je suis complètement actif, c'est-à-dire il n'y a rien qui a changé à ma vie par rapport à mon statut. C'est un statut qui a changé, mais mon activité reste la même.
Tu veux dire que tu n'es plus, ton statut, c'est plus coiffeur ? Tu as un autre statut ? Chef d'entreprise ?
Aujourd'hui, je suis retraité, voilà.
Ah, d'accord. Ouais.
Mais chef d'entreprise, bien évidemment, puisque je gère toutes mes affaires.
Toutes tes affaires. Alors, je sais que tu parlais de l'instant de l'Asie. Tu as des salons de coiffure en Chine, au Vietnam, à Berlin, au Mexique, au Portugal, au Brésil, un peu partout, c'est ça ?
Alors, il y a des. Quand tu as vu la carte du monde, certainement sur mon site, il y a des verts et il y a différentes couleurs.
Ouais, j'ai vu ça.
Il y a ceux qui sont existants et ceux qui sont en projet.
En projet.
Voilà, donc en existant, il y en a 12 pays aujourd'hui. Et alors, quand je te disais avant, en 1975, j'ai commencé le métier à Wissembourg, c'est mon apprentissage. Après, j'ai fait tout un cursus pour arriver à l'ouverture de mon premier salon qui était en l'an 2000.
En l'an 2000, et ça c'était rue des Serruyers, ça, non?
Alors en l'an 2000, le premier salon que j'ai ouvert, c'était Quai de Pêcheurs.
Ah, Quai des Pêcheurs.
Quai des Pêcheurs, ouais, c'était premier salon. Ouais. L'histoire, en fin de compte, parce que moi j'étais franchisé Jacques Desanges pendant de nombreuses années. D'abord coiffeur Jacques Desanges, et après franchisé Jacques Desanges de 87 jusqu'à l'an 2000. Et en 2000, j'avais fait un peu le tour de la question. J'avais ouvert une quinzaine de salons en France, mais aussi à Berlin, et j'avais envie d'avoir mon propre épanouissement et d'exister sans avoir la tutelle de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai lancé en 2000 le premier salon Crémer, rue Quai des Pêcheurs.
Quai des Pêcheurs. Et on parlait à l'instant de la Chine. En Chine, tu as à peu près une trentaine de salons également.
Il y a 95 salons à ce jour en Chine sur tout le territoire.
95 salons, ouais, c'est énorme. Donc tu es régulièrement là-bas?
Alors, 95 salons et 1800 salariés surtout, c'est ça qui...
À travers le monde?
Non, en Chine.
En Chine, rien qu'en Chine, 1800.
Et donc, j'y vais régulièrement, une ou deux fois par an. On y était là, il y a 10 jours, on y était. On a fait un voyage absolument fantastique. J'ai emmené une trentaine de partenaires français et suisses qui m'ont accompagné, et on a retrouvé ensemble les autres équipes de l'organisation du monde entier, notamment les Coréens, l'équipe artistique de la Corée, l'équipe artistique du Japon, des prospects cambodgiens, et puis bien sûr l'équipe artistique chinoise. Et ensemble, on a créé la collection internationale qui va sortir certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après.
Oui, on en reparlera un peu plus loin de cette nouvelle collection 2026-2027. Mais je sais qu'en Chine, tu es une vraie star, tout le monde te connaît, les télés t'invitent à tous les plateaux de télévision, à les radios, on te fait du shooting... Comment tu sens ça quand tu es plébiscité comme ça de partout?
Alors, une vraie star, il ne faut pas exagérer non plus.
Quand même.
Il y a une connexion, il y a une réputation aujourd'hui qui s'est faite en l'espace de 25 ans. Alors, quelque part, je vais te dire, je ne sais pas si on se tutoie aussi.
Oui, on se tutoie, on se connaît depuis tellement longtemps.
Voilà. Donc, je vais te dire qu'en fin de compte, que des fois, quand on a un petit problème de reconnaissance, un petit problème d'ego, on va dire, entre guillemets. Hein. Je vais là-bas, je suis tranquille ou je suis rassasié pour quelques temps, pour une année. Hein.
Ouais, parce que tu es quand même quelqu'un d'humble, tu aimes bien l'humblicité, hein. Tu es quelqu'un de...
Il n'y a pas de raison de ne pas l'être.
Ouais. Et c'est quoi la recette de ce succès? C'est ton père qui t'a donné une belle piqûre à l'époque quand tu étais jeune pour te donner cette envie d'aller vers l'excellence, de bien faire ton travail?
Alors mon père m'a donné, en fin de compte j'avais pas le choix en réalité, hein. Quand j'étais adolescent, en fin de compte il m'a dit ma sœur elle fait des études et moi je fais la coiffure. Je reprends l'entreprise familiale, mon père avait un petit salon de coiffure dans le village de Athènes et j'étais prédestiné à être coiffeur. Voilà, donc je me suis jamais posé la question, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que quand mon père a choisi ce métier pour moi, j'ai trouvé le plus beau métier du monde.
C'est ce que ton père t'a dit? Il t'a dit tu feras le plus beau métier du monde, mon métier?
Non, il n'a pas forcément dit ça, mais il a dit ça sera bien pour toi parce que tu vas pouvoir reprendre l'affaire, ce sera pas compliqué d'organiser ta vie. Et moi j'ai eu de la chance, c'est de vivre ma passion. Et il a toujours été là pour m'accompagner, pour m'aider, pour m'installer. La première affaire à l'époque, c'est-à-dire il fallait être caution personnelle, il fallait la caution du papa, de la maman. Enfin bon, il fallait vraiment en vouloir pour s'installer il y a 40 ans de ça.
Ouais, mais tu savais aussi qu'un salon de coiffure, c'est quelque chose qui ne connaît pas trop la crise. Les gens ont besoin de se faire coiffer. Les hommes comme les femmes, plus les femmes que les hommes encore.
Alors je vais te dire que non, je ne savais absolument pas ça. Quand j'ai fait mon premier crédit pour ouvrir le salon rue des Serruyers, franchement, j'en menais pas large. J'étais pas fier, pas, pas, pas très sûr de moi. Et puis surtout, j'ai
engagé... Heureusement, on n'est pas...
J'ai engagé mes parents, c'est-à-dire ils sont cautions, c'est-à-dire ils ont travaillé toute leur vie. Est-ce qu'ils vont perdre leur maison? Crois-moi, c'est-à-dire que j'ai bossé du lundi au samedi et pas d'heure.
Et à Athènes, en fait.
Non, ça c'était déjà Strasbourg, c'est rue des Serreuils.
Ça, c'était déjà rue des Serreuils. Oui, mais c'était déjà connu, t'avais déjà un beau salon de coiffure, moderne, c'était...
En 87, j'étais salarié chez Tony.
Chez Tony, ouais.
Chez Antoine Hubert. Mmh. À l'époque, c'était le patron où je travaillais, c'est lui qui était le franchisé Jacques Desanges à Strasbourg. J'ai travaillé là-bas, rue du Vieux-Marché au Vin, et j'avais beaucoup de clientèle, beaucoup, beaucoup de clientèle. Et donc forcément, quand j'ai demandé à Tony qu'on s'associe ensemble, qu'on ouvre un nouveau salon, j'ai trouvé ce salon qui faisait 500 mètres carrés quand même.
Ouais, c'était grand, ouais, je me souviens.
Et on a ouvert ce salon en 87 avec 18 salariés. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Personne n'ouvre un salon de coiffure avec autant de monde. Alors, c'est vrai que moi, j'avais toute ma clientèle. J'avais avec moi les meilleurs coiffeurs de Strasbourg qui m'ont accompagné. On avait tous de la clientèle. Alors, c'était impressionnant le succès qu'on a eu. Et c'est comme ça qu'effectivement, Monsieur Desanges lui-même m'avait repéré. Et c'est comme ça qu'on s'est côtoyé pendant de nombreuses années.
Parce qu'en fait, ton succès aussi, c'est parce que tu avais un talent particulier, tu avais un coup de ciseau différent. Où tu avais un contact différent avec les gens, qu'est-ce qui a fait que Yannick Rémer s'est tellement développé, a eu tellement de succès?
Alors, c'est différentes choses, je pense, aujourd'hui. Hein. Donc, j'étais un bon coiffeur, certainement même un très bon coiffeur.
Oui, on peut le dire.
Donc, ouais. J'avais beaucoup de clientèle, mais c'était aussi l'empathie que j'avais envers les gens. Moi, j'aime bien découvrir les gens.
La gentillesse, ouais.
La gentillesse, certainement. Ouais. J'aime bien parler, j'aime bien être avec mes clientes. J'aime bien...
Un coiffeur est un peu un confident également, qui écoute sa clientèle, qui écoute les gens parler. Parce que les gens, des fois, parlent de leur bonheur et de leurs petits malheurs, non? Ça existe,
le coiffeur est un confident, c'est évident, mais on n'a pas toujours le temps de tout écouter non plus.
Oui.
Donc, mais c'est surtout... l'accès à la beauté qui est important pour moi. Et c'est un rêve aussi vieux que l'humanité, donner la beauté aux femmes. Et donc, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on peut donner le sourire à une femme.
Oui, parce que un coiffeur transforme complètement le visage. C'est vrai, quand tu te fais te couper les cheveux, tu as l'air plus jeune. Mais quand tu te regardes dans ce miroir, tu dis « Ouais, c'est moi ça !» C'est vrai que c'est
là où, on a connu le manque et on a vraiment senti qu'on était important aux yeux de tout le monde, c'est après le Covid. Au moment de la réouverture des salons, pendant trois semaines, j'étais derrière mon téléphone. J'avais relié tous mes salons sur mon téléphone perso. J'avais des coups de fil, mais tu ne peux pas imaginer, c'est-à-dire le raz-de-marée que l'on a eu pendant les trois semaines après le Covid, après la réouverture.
Tu veux dire que c'était les clients qui t'appelaient ou c'est les différents salons de coiffure qui t'appelaient?
Les gens qui appelaient pour les rendez-vous.
Pour des rendez-vous.
Moi, j'avais connecté mon téléphone portable sur un transfert d'appel, quoi.
Ah ouais. Et tu penses que donc les gens se faisaient pas coiffer pendant un certain nombre de temps quand même?
Pratiquement, c'était quoi, deux mois, trois mois.
Et après ils avaient les cheveux en pétard comme ça.
Il y avait les couleurs qui étaient pas faites, les cheveux repoussés. Donc là, on s'est senti vraiment utile.
Utile. Alors tu parles d'utilité. Combien de gens tu coiffes à travers le monde, à travers tes différents salons? Ça fait des millions de personnes qui sont coiffées.
Ça fait 2 millions par an.
2 millions par an,
oui.
C'est incroyable, waouh. Et alors, c'est vrai, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes cheveux. Je sais que tu parlais de la Chine, là-bas les cheveux, c'est des cheveux noirs, un peu couleur charbon, très, très, très épais. Tu les coiffes, tu coupes les cheveux avec quoi? Avec un sécateur ou avec des...
on a les mêmes outils, hein, donc les outils sont universels, les techniques sont un peu différentes. L'avantage qu'on a, nous, les Français ou les Européens, c'est qu'effectivement, grâce à la mixité et à la culture multiple, on coiffe un peu toutes les personnes et tous les cheveux. Alors c'est vrai que le cheveu européen est un cheveu normal, fin, ondulé.
Ouais, mais c'est un peu comme des quedras, comme moi, là, c'est de ce cours.
Voilà, pas jusqu'à là, mais disons, c'est un peu ça. Et après, c'est-à-dire, on a des Asiatiques qui habitent en France, on a de tous les pays, donc forcément, c'est-à-dire, on arrive à maîtriser à peu près tous les pays. Alors qu'en Chine, ils ont l'habitude de travailler que les cheveux chinois. C'est des cheveux épais et noirs.
Ils travaillent avec des tondeuses alors?
Non, ils travaillent
avec des ciseaux.
Alors nous, notre clientèle, c'est pratiquement exclusivement des femmes. Donc on a 90% de femmes dans nos salons. Que ce soit en France et que ce soit en Chine ou en Asie.
Oui, parce qu'avec les hommes, tu ne fais pas trop de chiffres. J'imagine une coupe de garçons, c'est moins coûteux qu'une dame.
C'est évident, ça ne devrait pas d'ailleurs, mais effectivement, je confirme que c'est moins onéreux.
Et les femmes sont toujours très coquettes, hein. Elles veulent plaire, elles veulent être belles. Et c'est important d'avoir un beau coup de cheveux, quoi.
C'est très important d'avoir une belle coupe, une belle coiffure. Tu sais, je vais te dire, c'est-à-dire quand on peut comparer, par exemple, tu as un beau tailleur Chanel, tu es super bien habillé avec des grandes marques de luxe, et tu es mal coiffé, tu n'as pas autant de classe qu'une femme avec un jean, un t-shirt et une magnifique coiffure.
Ah oui.
Donc pour moi, la coiffure, c'est presque plus important que le vêtement.
Que tout le reste, ouais, ça fait partie de l'ensemble. Alors, on écoute un peu de musique pour se reposer un peu les oreilles. Je sais que dans les salons de coiffure, il y a aussi toujours un petit fond sonore. Il y a toujours un peu de musique. Hein. Où que tu sois, il y a de la musique dans un salon
on
de coiffure.
On a une radio dédiée, c'est la radio Crémer.
Ça existe, ça.
Ouais.
Et donc, tu fais ta playlist.
C'est toi qui
t'en occupes ou t'as quelqu'un qui...
J'ai quelqu'un, c'est une société qui fait ça pour pas mal de sociétés. Donc, mais par contre, le choix de la musique, c'est moi, avec mes collaborateurs, qu'on le fait.
Et là,
il y a les jingles toutes les 15 minutes, vous êtes bien dans les salons de coiffure.
Ah, c'est génial. Ouais. Et là, t'as la SACEM qui est derrière et qui encaisse.
Certainement,
ouais. Je pense qu'effectivement. Ouais. Alors, on va écouter une petite musiquette que tu aimes bien, une musique de Joe Dassin. Mets-nous voir ça, mon cher Thomas.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie, je réchauffais ma vie.
Alors tu aimes bien cette musique de Joe Dassin, mais elle est un peu tristounette, non? Elle est un peu nostalgique, c'est un mélange un peu doux et amer. Est-ce que toi, Yannick, tu es des fois un peu nostalgique?
Alors j'adore cette musique parce qu'elle est très instagrammable, parce que toutes les équipes de rugby chantent cette chanson dans leurs soirées, dans les vestiaires, et je la trouve très entraînante. Elle est peut-être certainement un peu nostalgique. J'avoue franchement que j'ai pas écouté toutes les paroles. Je suis plutôt mélodie et balade que d'aller au fond des paroles.
Une musique entraînante, quoi, que quand tu l'écoutes le matin, tu l'oublies pas, quoi.
J'adore. Ouais. Et puis je l'ai choisie parce que c'est une musique, c'est-à-dire que j'ai choisi pour une soirée prochaine, c'est-à-dire que je vais animer et que je vais donner une surprise, c'est-à-dire que je vais faire chanter toutes les personnes qui sont avec moi, une espèce de karaoké.
Ah, c'est sympa ça. Alors justement, on va revenir un petit peu à ton enfance. J'ai un petit jingle, regarde. Ça fait penser à ton enfance. Hein,
bah oui. Alors, ça, tu vas me bercer.
Un petit moulin. Alors, parle-moi un peu de ton enfance. Quel enfant étais-tu, Yannick? Est-ce que tu étais un enfant sage? Est-ce que tu es quelqu'un turbulent? Tu ne tenais pas en place?
Écoute, je crois que j'étais plutôt un enfant plutôt sage. Et puis, ouais, j'avais un papa quand même assez rigoureux, assez strict, quand même. Hein.
Pour l'éducation, ouais.
Voilà, donc non, j'étais un enfant sage. Je garde un très bon souvenir de mon enfance avec...
De Hatten.
In Houghton, exactement. Avec ma maman, mon papa et ma grande sœur. Hein, donc, j'y vais encore régulièrement. C'est un village que j'aime beaucoup.
Et tu étais plutôt un rêveur ou un bosseur quand tu étais jeune, à l'école, comme ça, comment c'était?
Alors, quand j'étais jeune, j'étais plutôt un rêveur.
Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est bien de rêver. Ouais.
Ouais.
T'es rêvé. Donc.
Je rêve toujours, énormément. Mais le pourcentage, c'est un peu inversé. Je bosse plus que je
rêve. Tu bosses plus que ouais. Et alors, ton père, en fait, c'est lui qui t'a donné cette belle piqûre. Tu en parlais tout à l'heure. C'est un peu nos héros, nos pères, tu penses?
Bien évidemment. Malheureusement, je l'ai perdu très tôt. Donc, il a vu le premier salon. Il a vu le salon de Strasbourg rue des Serruyers. Quand je le voyais assis, je voyais quand même une certaine satisfaction. À l'époque, il m'avait dit, Yannick, quand tu n'as personne dans le salon, il faut éteindre les lumières.
Pour économiser ?
Pour économiser. Pour économiser un peu d'électricité.
Ouais. Ah, oui.
Alors, j'ai pas eu besoin d'éteindre les lumières.
Mais c'est ce que, oui, justement, quand on va dans ton salon prestige rue de la Maison, il y a des lumières, il y a des lustres, c'est un salon magnifique. Il y a des miroirs, des fois j'avais envie de te voler un miroir tellement ils sont beaux.
C'est vrai.
C'est magnifique.
Ça fait un peu Versailles.
Ça fait, ça fait Versailles, ouais. Alors, je sais que tu t'occupes aussi de cette, au niveau planétaire, des différentes tendances vers l'élégance, vers la coiffure. C'est quoi la tendance 2026-2027? On n'est plus coiffé comme les Jones, comme un pétard. On a une coiffure un peu différente.
Alors, je te dirais, là, je vais botter un peu en touche parce que les tendances, elles se renouvellent. Et l'essentiel, c'est d'être belle. D'avoir la coiffure qui est le mieux adaptée à la personnalité de la femme.
Et comment tu le sais, ça?
Parce qu'on a d'abord un centre de formation à Strasbourg. On a des centres de formation en Corée, en Espagne, mais aussi en Chine et au Japon. Donc dans nos centres de formation, on travaille sur la beauté de tous les styles et de toutes les nationalités. Et ce qui est important, c'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on travaille dans tous les salons en France, et notamment dans la région de Strasbourg, que ce soit à Bar, à Aubernay, à Célestat, à Strasbourg et dans Lingolsheim, et toutes les villes où on est présent à Strasbourg. On a quand même 25 salons sur le département. Donc tous les salons viennent se former, on travaille ensemble. C'est pas uniquement moi qui dis voilà c'est ça, ça et ça. Ensemble on travaille, on regarde ce qui se fait dans les rues, on regarde ce qui se fait sur Instagram, on regarde les influenceuses, on regarde un petit peu comment est coiffé le public qui nous entoure. Mmh. Et c'est grâce à ça, c'est-à-dire qu'on découvre ce qui se fait actuellement.
Et alors, qu'est-ce qui va se faire prochainement? C'est quoi? Des cheveux un peu lissés, un peu brillants, un peu des coupes?
C'est un peu un retour aux boucles. Donc, et donc, justement, en Asie, on a vu avec mes partenaires qui étaient avec moi, c'est-à-dire on était assez impressionnés parce que nous, ça fait un petit bout de temps qu'on ne fait plus de permanente. Et là-bas, c'est-à-dire, ils ont...
À cause des produits toxiques?
On a fait des couleurs, on a fait des mèches. Et tout ça avec la permanente, ça n'allait plus trop. Donc aujourd'hui, on a un manque cruel de savoir-faire par rapport à la permanente. Donc comme il y a beaucoup de salons de coiffure qui ne savent pas faire les permanentes, donc du coup ils ne le font plus. C'est sorti un petit peu du savoir-faire des salons de coiffure français.
Ah, et alors. Bien sûr que tu viens du Grand Nord alsacien, c'est là où brille un peu l'étoile polaire, Hattem. C'est comment Hattem? Fais-moi un peu rêver. C'est comment l'endroit où tu as vécu, petit enfant? C'est plein de forêts, c'est plein de châteaux forts.
Alors, Hattem n'est pas forcément un village qui fait rêver. Hein. Donc, mais quand même.
Mais la nature est belle autour.
J'y ai passé toute mon enfance. C'est un village qui malheureusement a été complètement rasé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Il y a eu la fameuse bataille. Du 10 janvier 1945, où il y a eu plus de 5000 morts militaires et plus de 200 morts civiles, c'est-à-dire pratiquement une personne sur trois qui est décédée dans les caves. Et ma mère, d'ailleurs, elle a écrit un livre là-dessus qui s'appelle
La
tartine de beurre,
ouais.
Qui était un grand succès. D'ailleurs, il a été repris et ils ont fait un film. Fait un film sur la tartine de beurre. Alors, Hattem, donc, c'est un village, effectivement, qui repose un peu, quelque part, sur un cimetière. Parce qu'effectivement, d'avoir autant de morts dans le village, moi, mes nuits un peu bizarres que j'ai connues dans mon enfance, c'est certainement que le village était encore un tout petit peu habité quelque part.
Ah ouais. Et tu ressentais ça.
Je n'étais pas forcément le garçon le plus courageux de la terre.
Ouais. Et que. Ah, si quand même, t'as sauté en parachute un jour.
Oui, ça c'est après. parce que je devais me le prouver. Mais c'est vrai que pendant mon enfance, mes nuits souvent j'avais un peu peur d'être seul dans mon lit. J'avoue franchement que j'ai souvent appelé ma mère que
maman vient m'aider. Donne-moi mon doudou.
Voilà.
Alors à ce stade de l'émission, j'ai quelques. On est un peu plus qu'à la mi-temps de l'émission. Je voudrais te poser quelques petites questions et à la volée comme ça et tu réponds en un seul mot si tu veux bien. Tu es d'accord? Ouais, tu pourras, t'inquiète pas. Alors, dis-moi un petit peu, Yannick, si tu étais quel est ton mot préféré, Yannick?
Passion.
Passion? Et quel est le mot que tu détestes?
Stress.
Comment ?
Le stress.
Le stress. Ouais. Ah, le stress, parce que tu en as de temps en temps du stress, ouais. Ouais.
Assez régulièrement.
Et quelle est
l'impatience, j'aime pas non plus.
T'aimes pas non plus,
parce
ouais.
que je l'ai.
Ouais, oui, j'imagine.
Je suis habité.
Habité, ouais. Alors, quelle est la plus belle chose que tu as vue dans ta vie, Yannick ?
La nature.
La nature, ouais, c'est bien, qui te ressource, quoi. Ah, et à quelle époque aurais-tu aimé vivre ?
Début du siècle, le dernier.
Ouais.
Pour aller à New York, en 1900.
Ouais. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Et quel est ton héros préféré ?
Ouh.
Ton papa ?
Ouais, voilà.
Ouais, c'est bien, le mien aussi, ouais, je crois qu'on peut dire la même chose. Ouais. Et à ce stade, et quel est ton arbre préféré ? T'as un arbre que tu aimes bien ?
Le chêne.
Le chêne et la fleur ?
La tulipe.
La tulipe, ah oui, c'est en ce moment.
Ouais. Bah, j'en ai acheté ce week-end.
Ah oui, bah tu vois, c'est bien.
Un très beau bouquet de tulipes, c'est quelque chose qui est très beau.
Ouais, c'est beau.
Faut
ouais.
mettre très peu d'eau.
Oui, c'est absolument.
Faut le savoir,
aussi,
hein,
ouais. J'en ai aussi acheté hier, ouais, c'est vrai, j'en ai cueilli aussi dans une cueillette. Alors, et pour finir, quel est le parfum de ton enfance que tu n'oublieras jamais ?
Alors, quand j'allais à la pêche, et quand il faisait beau, au printemps, une espèce d'odeur comme ça qu'on n'oublie pas, qu'on peut pas oublier, qu'on a du mal à décrire, mais qui je le ressens de temps en temps. Après, une autre odeur quand même, parce que qui est importante dans ma vie, dans mon métier, c'est l'odeur, parce que mon père avait le salon de coiffure qui était attaché au salon de télévision. Ah. Et donc très souvent, la porte était ouverte salon de coiffure et dans le salon de télé. Et il y avait une espèce d'odeur d'ammoniac, de lac, de permanente, de produits d'oxydant.
Lac, oui.
Et donc ce produit un peu chimique, c'est-à-dire qui a baigné mon enfance et où j'ai été imprégné de cette odeur.
Ah oui, c'est intéressant. Et alors, je sais que tu passes 80% de ton énergie dans tes salons de salon de coiffure, du développement. Et les autres 20%, ils vont où, Yannick ?
Alors, moi, j'ai depuis mon arrivée à Strasbourg en 1981, je me suis promené au hall et il y avait une galerie d'art à l'époque au hall. Et je suis rentré dedans et je suis tombé nez à nez devant un tableau et j'ai eu un coup de cœur pour un tableau et j'ai dit « je dois acheter ce tableau ». Et j'ai demandé quel était le prix, et à l'époque c'était 2 mois de salaire. J'ai demandé au monsieur, est-ce qu'il y a une possibilité de payer en plusieurs fois?
Ouais.
Et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez payer en 3-4 fois. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 chèques. Et je suis reparti avec ce tableau qui était un Michel Guédron qui peignait des maisons alsaciennes au couteau.
Ah, avec une spatule.
Une spatule, travail remarquable, mais remarquable.
Ah, ouais.
Et j'ai eu une émotion absolument énorme. Pas spéculative, uniquement une émotion sur la beauté du tableau.
T'es tombé en arrêt devant ce tableau, ça veut dire une émotion, c'est quand on a des papillons dans le ventre, quand on ressent ça comme ça.
Qu'on est obligé de l'avoir chez soi et de pouvoir le contempler.
Tu veux le posséder, quoi.
Voilà. Ouais. Et c'est comme ça que
ça a
j'ai
démarré.
Acheté un premier guédron. Avec mes pourboires, avec mon travail, j'ai acheté un deuxième guédron, un troisième, un quatrième au fil des temps. Après, j'ai appris à connaître tous les artistes alsaciens, que ce soit Daniel Gasser, Marie Marziac, Bernard Apté, Raym Linger, Weidelich, Jean-Claude.
Et tu as chaque fois acheté un tableau.
Quand je pouvais, c'est-à-dire au fil du temps et au fil de ma vie et que je commençais à gagner un peu d'argent, j'ai pu acheter...
Parce que tu es collectionneur d'art, tu es marchand d'art aussi aujourd'hui.
Alors maintenant je suis marchand, avant j'étais collectionneur, donc j'ai collectionné beaucoup d'œuvres et en 1992, date de la première, du premier start à Strasbourg, j'ai rencontré de nouvelles galeries, il y avait plein, c'était un succès énorme. Les premiers starts. Et j'avais entendu parler déjà de Robert Combas.
Ah oui.
Et puis il y avait une très belle galerie de Pierre Naon, à la galerie Beaubourg à Paris. Une grosse, très grande galerie de renom qui avait des très beaux Combas. Et je suis arrivé lundi, enfin je l'ai vu le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, je suis arrivé. Il était toujours là, mon tableau que j'avais repéré. Et donc du coup, j'ai dit voilà. Est-ce que vous pouvez me faire un prix ? Alors, il m'a fait un prix intéressant, je crois qu'il m'a fait... dit, écoutez, j'ai rien vendu, je veux vendre quelque chose, je ne veux pas partir de cette foire sans avoir rien vendu.
Ah oui.
Et donc, du coup, il m'a fait un prix de 30 ou 40% de remise. Et après, j'ai dit, oui, mais monsieur, ce n'est pas tout. Il me faut aussi l'étaler. Je dis, ah ben quand même, il me dit. Hein. C'est que j'ai vraiment envie.
Tu veux tout, tu donnes tout, quoi.
J'ai vraiment envie de vendre. Donc, pareil, je lui avais donné 5 chèques. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier Robert Combas, avec beaucoup de fierté, que j'ai toujours encore.
Quelle belle histoire, en tout cas, Yannick. J'étais très content de te recevoir ici chez nous, chez Radio Judaïka. Je pense que tu reviendras, parce qu'on a encore plein de choses à me raconter. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à chez nous. Je sais que tu as un emploi du temps de dingo, et je te souhaite beaucoup de bonheur pour, et beaucoup de succès encore avec tes salons de coiffure.
Merci beaucoup, c'est un plaisir de venir, ouais. Et puis pourquoi pas, avec plaisir.
Ouais, bon, on fera ça. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes.